Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 13 mai 1988.
Je fais encore un cours sur la quantité pour terminer, puis après on se jettera dans la relation. Vous voyez comme il est difficile, hein, de bien préciser ce qu'est la quantité au point de vue de l'être, ce mode particulier de l'être. Dans notre monde physique, le monde dans lequel nous vivons, puisque nous faisons partie de ce monde physique, notre corps est une partie de ce monde physique. La quantité joue un rôle extrêmement important, évidemment relatif à la qualité, c'est bien évident, mais extrêmement important pour expliquer les contacts, condition sine qua non des contacts. C'est pas la quantité qui fait les contacts. Les contacts se font par la qualité. C'est la condition sine qua non. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de qualité et de quantité, voyez, nous ne pouvons pas les séparer. Nous devons les distinguer, mais nous ne pouvons pas, dans l'ordre existentiel, les deux se tiennent dans le monde physique. Mais ce qu'il y a de tout à fait particulier, c'est que la quantité est liée à la matière, tandis que la qualité émerge dans le monde spirituel. Il y a des qualités spirituelles, des qualités dans l'ordre de l'intelligence. L'intelligence elle-même est qualité pour nous. Et elle n'est pas matérielle. Elle échappe à la quantité. Tandis que l'imagination demeure dans la quantité. On s'immerge dans le domaine de la quantité, dans le domaine de l'imagination. Et la quantité, évidemment, la quantité imaginée que nous imaginons, c'est-à-dire l'infini dans la quantité. Parce que ça, c'est le propre de la quantité imaginée, c'est l'infini. On peut toujours ajouter, on peut toujours diviser. Donc, il y a l'infini, infiniment petit, et l'infini, infiniment grand. La quantité imaginée n'est pas la quantité physique. Ça demeure une forme intentionnelle que nous portons en nous, que nous formons en nous. Intentionnelle, sensible, divisible, qui est d'un caractère tout à fait particulier, puisque c'est le propre d'une forme intentionnelle sensible d'impliquer le domaine de la quantité. Et alors, je vous ai déjà dit, dans le domaine imaginatif, ce qui est très curieux, c'est que les sensibles communs passent devant les sensibles propres. Il est bien évident que nous pensons, nous imaginons la quantité et nous pouvons la penser. Alors c'est peut-être là, vous voyez, où nous devons bien saisir la différence entre le passage de l'imagination et le passage de la pensée intellectuelle. Aristote dit que de fait, la plupart des philosophes avant lui ont confondu imagination et intelligence. Et on pourrait dire aujourd'hui que la plupart des philosophes confondent les deux. C'est pour ça que nous avons tant de peine à bien saisir ce domaine de l'imaginaire qui imagine la quantité, donc imagine l'infini, le fout le camp, nos rêves, nos cauchemars. On s'enlise dans l'imaginaire, c'est le propre du cauchemar. Et tous les cauchemars sont dans les sensibles communs. Vous êtes immobilisé, voyez le repos. Vous êtes ligoté. Le gros chien s'approche de vous. Et avec toutes les possibilités inverses, où vous êtes perdu dans le nombre, dans la masse, immergé dedans. Et vous perdez complètement ce que vous êtes. Et ainsi de suite. Les sensibles communs, le nombre, la grandeur, le point de vue du mouvement, du repos et la figura, le masque. La figura, le masque, c'est la figura. Hein. Le masque qu'on applique de l'extérieur. Alors, il faut bien saisir comment le domaine imaginatif, c'est le domaine de la représentation. Donc, quand j'imagine la quantité, je me la représente. Comment représentez-vous l'imaginaire, la quantité? Et quand vous pensez la quantité, vous essayez de saisir sa signification. Et peut-être ça, il faut bien saisir. Comment représentez-vous l'imaginaire, l'infini, la quantité, le nombre? Et là, c'est tout de suite la dimension. Les parties à côté des parties. L'extériorité. On peut se représenter l'extériorité. Petit travail qui serait très intéressant. Faites un petit croquis de ce que représente pour vous la quantité. Ça représente la quantité. Et vous pensez la quantité. La quantité a une signification. Parce qu'elle est être. Tout ce qui est être a signification. Le propre, la propriété de l'être, c'est l'intelligibilité. Donc tout ce qui est être a une signification. La qualité a une signification, la quantité a une signification. Quelle est la signification de la quantité? Le divisible. Je crois que ça fait bien comprendre ce que nous avions essayé la dernière fois de montrer le divisible et la dimension. Mais si on le reprend de cette manière-là, on le comprend peut-être mieux. Et c'est toujours lié dans l'ordre de l'exercice, puisque vous ne pouvez pas penser sans une image. N'essayez pas de penser sans image, parce que vous vous imaginez penser sans image. La réalité, c'est que vous pensez toujours avec une image. Alors vous pouvez très bien imaginer une pensée sans image. Et ça, c'est le comble. Mais on fait ça, ça qui est bon. Vous imaginez penser sans image. Un monde sans image. Purement intelligible. Bon, c'est ce qu'a voulu faire Platon. Il a voulu penser un monde sans image. Et Aristote dit non, pas du tout. Chaque fois que vous pensez, il y a une petite image. Donc la quantité est toujours présente. Mais faisons attention. L'image ne détermine pas ma pensée. L'image, c'est dans l'ordre de l'exercice. Je m'appuie sur l'image. C'est ma vieille canne. L'intelligence est tellement faible qu'elle a besoin de ce tuteur. Et l'imagination est là comme un tuteur. Je m'appuie. Donc, je ne peux pas penser sans que la quantité soit présente. Vous voyez, le conditionnement. C'est vrai, c'est vraiment le conditionnement de ma pensée. Je ne peux pas donc avoir une signification à l'état pur. Une signification qui est toujours liée au domaine de la représentation. C'est pour ça, vous voyez, que si facilement on confond l'un et l'autre et qu'on n'arrive plus à distinguer la représentation et la signification, la représentation quantitative. Parce que la quantité, c'est le domaine privilégié de la représentation. Et la qualité, quand je pense la quantité, je suis dans le domaine de la signification, mais c'est la signification la plus matérielle qui soit. Puisque vous ne pensez la matière qu'analogiquement. Quelle est la signification de la matière? Posez-vous la question, parce que ça, c'est des questions limites. Quelle est la signification de la matière? C'est-à-dire, je me suis jamais pensé ça. Heureusement que je n'ai jamais pensé la signification de la matière. Est-ce que la matière a une signification? Eh bien non. Là, ça vous repose, ça. La matière n'a pas de signification. Elle est tout le temps relative à autre chose. Je la pense analogiquement. Tandis que la quantité a une signification. Oui. La matière, c'est du non-être. C'est un être en puissance. Or, un être en puissance n'a pas de signification en lui-même. Un être en puissance est relatif à un autre. Et sa signification, c'est par rapport à l'acte. Tandis que la quantité a une forme propre qui est le divisible. Donc, le divisible a une signification. Alors, c'est ça qui serait très curieux à voir et très intéressant à voir. Oui, au point de vue critique, là, on est un peu. Mais c'est intéressant d'essayer de comprendre cela, de voir que dans toutes mes connaissances, quand j'essaie de connaître la quantité, puisque c'est la signification la plus basse, c'est là où la signification est le plus proche de la représentation, si j'ose dire. Dans le domaine de la quantité, où la frontière entre représentation et signification est le plus délicat, tellement la quantité est un être lié à la matière. Or, la matière n'a pas de signification propre, comme du reste, elle n'a pas de représentation propre. Ne cherchez pas à vous représenter la matière. Impossible. La matière, vous ne pouvez la connaître que par l'intelligence. Quand vous vous représentez la matière, vous vous représentez la quantité. Un abîme enveloppant un puits sans fond. Là, un puits sans fond. Le puits est profond. Alors vous jetez le petit caillou et vous attendez d'entendre le petit caillou qui tombe dans l'eau. Et vous dites, le puits est profond. C'est ce qu'ils font encore au puits de Jacob, en Samarie. Chaque fois que vous y allez, ils prennent un petit caillou et puis ils le jettent dedans. Puis on entend, voyez, le puits est profond. C'est vrai. On attend que ça tombe dedans. Petit flouque. Et vous représentez ça tout de suite. Chaque fois que vous êtes écouté, vous représentez la profondeur du puits. Et représenter la profondeur du puits, c'est quoi? C'est la quantité. Vous ne pouvez pas vous représenter la matière. Impossible. C'est par la quantité. Alors, peut-être que ça nous fait comprendre ce que c'est que l'être de raison. Je dis peut-être, parce que c'est assez difficile, mais c'est quand même très intéressant à se poser la question. L'être de raison, vous voyez, c'est quoi? Être de raison? Je ne peux pas l'imaginer, l'être de raison. Je ne peux que le penser. C'est l'universel. Unum ad multa. Nous y reviendrons, hein? Parce que l'être de raison, c'est une relation. C'est une pure relation, l'être de raison. Unum ad multa. Un vers le multiple. Vers les multiples. Parce que le multiple est toujours au pluriel. Donc vers les multiples, ad multa. C'est ça là, l'être de raison. L'être de raison a une signification, mais vous ne pouvez pas le représenter. Vous ne pouvez pas vous représenter ce que c'est que l'universel. Vous le pensez. Pensez, si vous voulez, animal. Puisque c'est l'universel qui nous est le plus connaturel. Animal. C'est un universel. La signification de animal a un mode universel. Ce n'est pas la signification d'animal qui est l'universel. Parce que animal, oui, a une signification. Est-ce que vous pouvez vous représenter animal? Pas commode, hein? Vous ne pouvez pas vous représenter l'universel. Alors, est-ce que l'universel, dans sa signification, est-ce qu'il n'assume pas, d'une certaine manière, la signification de la quantité? L'universel animal, c'est un tout. Un tout divisible. Voyez comment la quantité est présente dans l'universel. Un tout. C'est un tout universel. Et un tout divisible. Puisque ad multa, vers le multiple, vous divisez animal. Raisonnable. Irraisonnable. Animal à deux pattes. Animal à quatre pattes. Animal à mille pattes. Il y a le mille pattes. Et chaque fois qu'il y a une patte de plus, vous voyez, ça se multiplie. Donc, ad multa, vers le multiple. Donc, tout divisible. Comme c'est curieux, la parenté de l'être de raison et de la quantité. Je ne vais pas plus, hein. Simplement pour vous remettre dedans. La représentation de la quantité, la signification de la quantité. Alors, dernière petite précision. On regarde les propriétés de la quantité maintenant. Les propriétés ont toujours cet immense avantage que les propriétés, c'est plus proche pour nous. La quantité, comme Aristote l'a montré, n'a pas de contraire. Certes, la quantité est multiple et continue, mais d'une manière homogène. Si la contrariété exige l'opposition, le multiple, le continu, ne l'exige pas. car il n'implique pas d'éléments de différenciation. Très curieux, cela. La quantité, donc, le domaine du neutre. Pas d'opposition dans la quantité pure. Ça explique des quantités de choses, ça. Voyez, pour l'œcuménisme. Supprimons toutes les contrariétés. Supprimons toutes les différenciations. Alors on tombe dans la neutralité. On fait des chrétiens qui ne savent plus qu'ils sont chrétiens. Et ça, c'est l'œcuménisme par le bas. Parce que l'œcuménisme, hein, c'est rassembler des parties séparées. Et ils se sont habitués à vivre là au troisième étage, là au sous-sol. On peut peut-être les faire sortir, puis qu'ils se rencontrent, parce qu'ils habitent quand même le même immeuble. Peut-être les faire tenter les parties, pour en faire un tout. Alors, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous supprimez les différences. Et vous voulez les rassembler. Et là, vous retombez dans le domaine de la quantité. Il n'y a plus de contrariété. Très curieux. La quantité est au-delà de la contrariété. Ou en ça, serait plus juste. La seule opposition que l'on peut découvrir dans la quantité est celle du grand et du petit. Du beaucoup et du peu, qui en réalité n'expriment pas l'opposition de certaines quantités entre elles, mais des oppositions dans les relations. Ça, c'est très curieux. On viendra ça sur la relation. On n'est pas grand d'une façon absolue, mais toujours par rapport à un autre. On ne peut être dit grand par rapport à tel ou tel, et petit par rapport à tel ou tel. C'est toujours petit et grand, beaucoup et peu. Le gosse, vous lui donnez 3 bonbons. Il est très heureux. Ah, très très heureux. 3 bonbons. Puis, faites la bêtise de donner à l'aîné 4. Il se met à pleurer. Il y en a 4, moi j'en ai 3. Mais si on était un peu plus intelligent, on ferait moins de bêtises. On ne ferait jamais ça. On laisserait l'absolu des 3. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus au point de vue éducation. C'est très important. Beaucoup et peu, toutes les rivalités viennent de là. C'est la relation. Ce qui est certain, c'est que la quantité permet à l'opposition des contraires de s'exercer pleinement. Oui, la condition pour l'exercice des contraires, elle la fonde, mais ne la réalise pas formellement. Elle en conditionne l'exercice. Toujours, toujours. La quantité, c'est le domaine du conditionnement. C'est le domaine du divisible. En lui-même, le domaine de la quantité est antérieur à celui des contraires. En lui-même, il est une zone de repos sans lutte, de neutralité. Alors, c'est très intéressant de voir la parenté de la quantité et de la neutralité. C'est un peu terrible. Mais il y a une parenté très grande entre la neutralité et la quantité. Donc en lui-même, le domaine de la quantité est une zone de repos sans lutte, de neutralité sans opposition. Et comme la quantité n'exige jamais à l'état pur, elle n'existe dans cette pureté que grâce à l'abstraction. Domaine mathématique. la zone de la neutralité. Oui, les mathématiciens apaisent et mènent la neutralité. Des têtes de matheux comprennent pas le drame. Impossible. Impossible. Ils sont dans la quantité pure. On peut dire que dans notre univers, la quantité sans apporter la lutte la rend inévitable. Ça, ce serait très curieux. C'est un sujet extraordinaire à étudier, ça. Comment la quantité dans notre univers n'apporte pas la lutte, mais la rend inévitable. Ça a d'immenses conséquences au plan politique. Pour Aristote, le nombre, c'est la quantité. Le nombre est un facteur inévitable de rivalité. C'est pour ça qu'il dit que les cités ne doivent pas dépasser tel nombre. Les universités, si elles étaient bien conçues, ne doivent pas dépasser tel nombre. Et ce n'est pas la quantité comme telle. La quantité, elle est neutre. Donc on peut toujours en ajouter. Mais il arrive un moment où la quantité déborde. Alors c'est l'anarchie. Et donc elle rend les luttes inévitables. Ça, c'est très, très. Ce sont des petites considérations qu'Aristote fait en politique, qui sont très intéressantes au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, réfléchissez sur ce que c'est que la quantité. La quantité n'implique pas les contraires, mais elle est le support. Alors c'est très curieux que si ce support devient trop grand, il appelle la rivalité. Notons qu'une philosophie qui tend à s'abstraire de la quantité est souvent attirée par la nostalgie de la non-violence et de la neutralité. Il faudrait toujours bien discerner dans ces nostalgies ce qui relève d'un dépassement à l'égard de la lutte. Et donc de la finalité et de l'amour de l'homme, de ce qui relève d'une abdication, d'une fuite de la réalité qui matérialise en enlisant dans la quantité. Donc une philosophie qui tend à tout ramener à la quantité tend vers la neutralité. La quantité, puisqu'elle est antérieure au contraire, est en elle-même immuable et n'est pas principe de mouvement. Elle conditionne le mouvement. Alors, il faudrait voir comment la psychologie, qui demeure dans le conditionnement, implique toujours des alliances avec la quantité. Et voyez, c'est très curieux, parce que le but des psychologues, hein, c'est de supprimer les luttes et les rivalités. Le but de beaucoup de psychologues, de la plupart des psychologues, quand ils sont nombreux, là encore, le nombre chez les psychologues fait qu'alors ils tendent à affirmer le conditionnement comme la chose principale. Et alors, c'est très curieux, c'est uniquement l'adaptation. Vous êtes équilibré si vous êtes adapté. Alors que je dirais, vous êtes équilibré si vous atteignez votre fin. Pas tout à fait la même chose. Il y a cependant un mouvement selon la quantité. Le mouvement de croissance et de décroissance. Mais ce mouvement n'a pas dans la quantité son principe. C'est un mouvement vital. Il a cependant son terme dans la quantité. Il se réalise et s'achève en elle. Donc, vous voyez, pas de contraire dans la quantité. C'est très intéressant, ça. Ça expliquerait des quantités de choses au point de vue psychologique. Et ça expliquerait comment la psychologie ne peut pas donner de solution. La psychologie pure, vous voyez. Le conditionnement pur. La quantité, deuxièmement, la quantité n'est pas susceptible de plus et de moins. Car, par induction, c'est par induction qu'Aristote le prouve, en parcourant les diverses espèces de quantités. Cela tient à la nature même de la quantité, car les parties quantitatives sont juxtaposées les unes aux autres, et donc extérieures. Elles n'admettent aucune possibilité d'intériorité, de compénétration mutuelle. Donc, il ne peut pas y avoir de plus et du moins dans la quantité. Un monde qui ne serait qu'un monde de quantité, donc purement imaginaire, vous ne pouvez qu'imaginer une quantité pure, posséderait-il encore des valeurs? La notion de valeur n'implique-t-elle pas nécessairement cet élément de plus ou de moins dans la même forme? On estime les valeurs, plus ou moins. Il y a une hiérarchie. Il n'y a pas d'hiérarchie dans la quantité. Cet élément de graduation, de hiérarchie dans la même forme, n'est-elle pas nécessairement, au point de départ, quelque chose qui est d'ordre qualitatif? La qualité implique le plus et le moins. La quantité tend à niveler. Le fait qu'il n'y ait pas de plus et de moins dans la quantité montre comment toute vision univoque du monde, sans aucune analogie qualitative, se fonde sur la quantité. L'univocité se fonde sur la quantité. Vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le lien avec l'universel, générique, qui est le fondement de toute univocité, eh bien, il est lié à la quantité. Troisième point, la quantité en elle-même n'a aucune perfection, ni aucune beauté. Le nombre et la dimension quantitative comme telle n'ajoutent à la réalité aucune perfection nouvelle. Ils sont en dehors de l'ordre du bien, en dehors de l'ordre du beau. Toutefois, la quantité peut être la condition sine qua non de la perfection et de la beauté, étant donné ce qu'est l'être physique, étant donné sa matière. Ce n'est pas l'accumulation de biens qui fait le bien-être, qui rend quelqu'un heureux. Néanmoins, cette accumulation peut être utile. On le sait. Ayez beaucoup de biens, ça peut rendre heureux. Et ce n'est pas l'accumulation qui rend bien heureux. Vous voyez les fausses séductions. L'accumulation de biens en trop grande quantité peut être l'occasion d'un étouffement ou d'un repliement qui provoque la mort. L'accumulation peut mettre en situation limite. Et en mettant en situation limite peut provoquer la mort. Un étouffement. Parce que la quantité demande d'être mesurée. La quantité, par elle-même, n'atteint pas la qualité. Si le nombre en lui-même n'explique rien des événements humains, il est souvent occasion de révolte, d'opposition, de contestation. Mais la manifestation exige le nombre. Il faut un certain nombre pour que la manifestation existe. Et si la manifestation a trop de nombre, une quantité trop grande, ça peut devenir occasion de révolte. La finalité même de la manifestation se perd dans le trop grand nombre. La propriété de la quantité, c'est l'égalité. Voilà ce qui caractérise la quantité, c'est l'égalité. Ah oui, l'amour trop grand de l'égalité. Égalité, fraternité, hein? Liberté. Vous voyez le vice, c'est l'égalité, un primat de la quantité. D'où suffrage universel. Alors où ça conduit? Cicéron a des paroles terribles là-dessus, qui seraient peut-être bonnes de temps en temps de se les rappeler. La propriété de la quantité, c'est l'égalité. En effet, l'égalité n'est autre que la relation d'une quantité à une autre, selon la négation de tout excès, ici ou là. Plus profondément, c'est un reflet de l'unité inhérente à l'être dans ce mode spécial de l'être qu'est la quantité. Très curieux. L'un, c'est propriété de l'être, on le verra, l'acolyte. Or, la quantité est un certain être. Quel est donc la propriété de l'être dans ce mode particulier de l'être qui est la quantité? Et à ce moment-là, vous découvrez l'égalité. Vous voyez bien? C'est très curieux. L'émergence de l'égalité dans ce domaine de la quantité. Subitement, comment l'égalité s'impose? L'égalité s'impose, j'allais dire, comme une qualité, ça n'est pas une, mais comme une qualité, ça donne le change. Très curieux la séduction de l'égalité, très très curieux. Les gens pensent que c'est une qualité, fraternité oui, liberté oui, mais pas égalité. Or l'égalité fonde les deux autres, dans une, j'allais dire dans une saine république, qui n'est pas saine du tout à cause de ça. Tout est vicié par l'égalité. Non, on ne peut pas le dire. On ne peut le dire que philosophiquement. Vous ne pouvez pas le dire politiquement. Tellement l'égalité joue un rôle de séduction. Mais il faut bien dire que c'est l'égalité, c'est le reflet inhérent à l'être, propriété de l'être, dans ce monde spécial de l'être, qui est la quantité. L'égalité, comme propriété, nous révèle ce qu'est la quantité. C'est plus facile pour nous de rêver à l'égalité que de rêver à la quantité. Mais dès que vous rêvez à l'égalité, la quantité est présente. Dès que vous pensez l'égalité, c'est plus facile de penser l'égalité que la quantité. Pensez l'égalité, c'est facile. Il pèse 110 kilos, il pèse 110 kilos. Vous avez tous les deux une décoration. Vous êtes égaux dans le poids. Donc vous avez cette décoration des gens qui pèsent 110 kilos. Décoration lourde à porter. Mais c'est une décoration. Vous avez 110 kilos, quoi. Partie de la catégorie des 110 kilos. Et là, vous êtes égaux. Vous pouvez vous regarder en face. C'est pas gênant. Vous n'êtes qu'avec des 110 kilos. C'est pas gênant du tout. Vous êtes à l'aise. Parce que, oui, l'égalité, c'est très curieux, mais ça va très loin, vous savez ce que je dis là. Parce que vous êtes à l'aise avec tous les gens qu'il y a égalité. Vous voyez, la séduction d'être à l'aise. Vous ne pouvez plus être gêné, quoi. C'est le paradis. Quand on est gêné, c'est terrible d'être gêné. C'est juste l'inverse de l'originalité. Il y en a qui se complaisent dans l'originalité. On a tous rencontré des êtres comme ça. On a des noms. Tous, tous. Il y a des gens qui se complaisent dans l'originalité. Et s'ils n'ont pas fait leur petit numéro durant la journée, ils sont immergés dans l'égalité. Donc ils désirent faire leur petit numéro pour sortir de l'égalité, pour être des originaux. La mode. On met la cravate de telle façon. Les nœuds de cravate, l'originalité, c'est extraordinaire. L'originalité, parce que ça se manifeste là. Vous ne pouvez plus en avoir. Mais il y a l'originalité quand elle réapparaît. L'originalité, l'égalité. Pensez à ça, c'est intéressant pour saisir ce que c'est que la quantité. Donc la quantité n'est-elle pas pure divisibilité sans aucun élément de différenciation? Si la quantité n'a aucun élément de différenciation, l'uniformité, l'univocité, l'égalité, ça se tient. Par le fait même, les parties divisées sont égales ou inégales entre elles, puisqu'elles ne peuvent être relatives que de cette manière. Reste, notons-le bien, l'égalité parfaite ne se trouve que dans les parties purement quantitatives. Couper une tarte en parties rigoureusement égales, vous trouverez encore des différenciations dans ces diverses parties. C'est sûr, parce qu'il y a de la pâte plus ou moins montée. Donc il y a des collines et des montagnes, ou des plaines, ou des creux. Donc vous retrouvez une différenciation. Puis il y a la couleur. Elle a plus ou moins cuit, plus ou moins doré. Très curieux, vous voyez. Et quand vous mettez justement cette pure égalité, vous mettez en lumière certaines différenciations. Alors le mythe de l'égalité, c'est un mythe. Le mythe de l'égalité met en lumière d'autres différenciations. Alors, regardez en politique, comment le mythe de l'égalité met en lumière. Je passe de la tarte à la politique, mais c'est très bien. Parce que l'État, c'est un tout. Vous divisez les citoyens, égalité absolue. Vous voulez du moins le mythe. Ça n'existe pas. Ça n'existe que pour la tarte. On peut faire des parts égales. Avec un compas, on y arrive. En réfléchissant un peu. Et immédiatement, l'égalité pure met en pleine lumière d'autres différenciations qui amènent l'anarchie. très intéressant, ces choses-là. Ça a d'immenses conséquences. Parce que la réalité n'implique pas l'égalité. Donc vous faites vivre les citoyens dans un mythe. Le mythe de l'égalité. Qui augmente alors les différenciations. Du reste, donc, l'égalité parfaite ne se trouve que dans les parties purement quantitatives. Dès qu'une note qualitative intervient, une égalité rigoureuse se perd. Prétendre qu'il y a égalité entre des personnes ou des citoyens, c'est un mythe.